Hier, les marchés ont explosé à la hausse. Sans grande surprise, tout le monde s'est félicité, tout le monde s'est tapé dans le dos. Les généraux ont sorti leurs plus belles médailles. Trump a tweeté, l'Iran a tweeté, le Pentagone a fait une conférence de presse qui ressemblait plus à la cérémonie des Oscars. Mais c'était pas du cinéma, même si Brad Pitt aurait certainement pas fait mieux. Et les indices boursiers mondiaux ont décollé comme si quelqu'un venait d'annoncer que l'inflation était officiellement terminée, que la Fed allait mettre les taux à zéro et que le pétrole revenait au prix de l'ère Covid. Sauf que rien, mais rien de tout ça n'est vrai. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est le lendemain du cessez-le-feu et je vais vous expliquer pourquoi ce matin vous payez toujours votre plein très très cher et que ceux qui ont acheté une Tesla savent enfin pourquoi. Je vais aussi vous expliquer pourquoi la Fed ne sait toujours pas quoi faire et pourquoi le détroit d'Ormuz ressemble toujours plus à un lac privé iranien qu'à une autoroute pétrolière internationale. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 9 avril 2026. C'est parti!
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Commençons tout d'abord par l'événement de la décennie. La paix, la vraie paix, enfin, la paix de 2 semaines, parce que c'est ça la réalité. Hein. On a signé un cessez-le-feu de 14 jours, 2 semaines. Le temps d'une cure de détox ou d'une location Airbnb à Bali. Et visiblement, tout le monde a décidé que ces 2 semaines, c'était largement suffisant pour reprendre une vie normale, remonter les bourses de 5% et aller se coucher le cœur léger. Maintenant, faites tout simplement l'exercice et écoutez simplement ce qu'ont à dire les deux parties. Non, non, vraiment, écoutez ce que chacun dit avoir obtenu de ce deal. Les Iraniens sont persuadés d'avoir mis l'armée américaine à genoux, le plus grand empire militaire de la planète, humilié, rampant, suppliant, victoire totale, gloire à la révolution islamique. Les Iraniens ont vu la capitulation américaine. Trump, lui, il pense qu'il a fondamentalement transformé le régime iranien, réformé le gouvernement, changé les mentalités en 2 semaines de frappe aérienne et un coup de fil à Islamabad. Demain, c'est le retour des mini-jupes à Téhéran et le peuple pourra faire ce qu'il veut et dire ce qu'il pense du gouvernement totalement librement. Ensuite, seulement, ils seront pendus. Et le Pentagone, alors lui, mesdames et messieurs, alors lui, il pense qu'il vient carrément de gagner le Super Bowl à lui tout seul. Le secrétaire de la Défense qui souriait tellement fort hier, j'ai cru qu'il allait verser une larme de joie en tenant le Vince Lombardi Trophy à bout de bras. Trois narrations différentes, trois réalités parallèles, aucun point commun ou presque. Et ces gens-là, ben, ils vont se retrouver dans 15 jours, enfin pendant ces 15 prochains jours à Islamabad, pour signer une paix définitive. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'attends ça avec le même enthousiasme que quand le dentiste il dit « Attention, ça risque de faire mal !» Et pendant ce temps-là, Israël bombarde le Liban. Et là, les Américains ont sorti l'argument du siècle. Le Liban n'est pas inclus dans le deal. My bad. Donc on fait ce qu'on veut. Ils ont réussi à négocier un cessez-le-feu avec un astérisque comme sur un contrat d'assurance. Une zone franche pour continuer à pilonner le Hezbollah tranquillement pendant les négociations de paix. C'est comme signer un divorce à l'amiable mais continuer à appeler son ex à 2h du mat. Techniquement, c'est pas illégal. Et puis alors, il y a le pétrole. Le pétrole, parlons-en, parce qu'il faut en parler du pétrole. Les futurs, sur le brut, ont plongé donc de 13% hier, après l'annonce du cessez-le-feu. 13%, c'est énorme, bien sûr, hein, comme dirait Lucchini. C'est une nouvelle fantastique. C'est exactement ce que tout le monde attendait depuis des semaines. Sauf que le WTI est à 96,84$ ce matin contre 54,98$ le 24 décembre dernier. Donc c'est quand même mieux que 120, d'accord, mais c'est quand même presque le double de là où on était il y a quelques mois en arrière. Et les prix à la pompe aux États-Unis, ils n'ont pas bronché. Bon, ici non plus, rassurez-vous. Mais aux States, on est à 4,16$ le gallon pour l'essence ordinaire et 5,67$ pour le diesel. Et en Californie, parce qu'en Californie tout est plus californien, eh ben on frôle les 6$ sur l'ordinaire et 7,75$ sur le diesel. Alors pourquoi est-ce que ça ne baisse pas? Eh bien parce que le marché pétrolier fonctionne comme la gravité, mais à l'envers. Quand ça monte, c'est instantané. Quand ça descend, c'est progressif, prudent, en cours de recalibration des marges. Le gérant de station-service, lui, il doit payer demain ce qu'il commande aujourd'hui. Donc, quand les prix montent, il répercute immédiatement. Et quand il descend, eh ben, il se rembourse. Les semaines de galère, les nuits d'angoisse, le stress existentiel d'être gérant de station-service en pleine guerre au Moyen-Orient. Et donc, personne ne le force à baisser vite parce que les consommateurs, eux, dès que ça baisse un peu, ils arrêtent de chercher la station la moins chère parce que ça baisse. Alors, à quoi bon chercher? Ce qui enlève donc toute pression concurrentielle. La vie est plutôt belle sous cessez-le-feu pour les vendeurs d'essence. Et puis, il y a le problème structurel. Les raffineries de la région, Yanbu, Mina Alhamdi, Babco, ont pris très cher pendant le conflit. Et contrairement à ce que Trump semble croire, on ne reconstruit pas une raffinerie pétrolière avec un tweet et de la bonne volonté. C'est plus facile de balancer un drone que de reconstruire une unité de distillation atmosphérique. Quant au détroit d'Hormuz, les Iraniens ont gentiment précisé qu'ils le rouvriraient, je cite, « de manière contrôlée, en coordination avec leurs militaires ». Traduction, on garde une main sur le robinet et l'autre sur le lance-roquettes. On décide qui passe, quand et à quel prix. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, ils ont déjà commencé à proposer des tarifs individuels à des pays comme la Turquie ou l'Espagne. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, ils ont déjà commencé à proposer des exemptions individuelles à l'Espagne et à la Turquie, des bons de réduction sur le passage du détroit d'Hormuz. Un peu comme des tickets de tombola. Tirez le bon numéro et votre tanker passe ce soir. Le IA, l'Agence américaine d'information sur l'énergie, eux, ils estiment que même dans le meilleur des scénarios, la pleine restauration des flux pétroliers prendra des mois. La guerre fait monter les prix en 3 jours, des fois même en 3 minutes, mais la paix, elle, elle va mettre au moins 6 mois à les faire redescendre. Et encore, c'est si tout se passe bien. Ce qui, historiquement parlant, n'est pas exactement la tendance dominante dans cette région du monde. Mais bon, mis à part ça, on peut avoir tous les doutes du monde. On peut trouver que ce cessez-le-feu ressemble à du bricolage de fin de trimestre habillé en victoire historique. On peut noter que les deux parties ne parlent pas du même accord, que le détroit est toujours fermé et que les raffineries sont en rade et qu'Israël continue de s'occuper du Liban comme si de rien n'était. Les marchés, eux, ils s'en fichent. Hier, les bourses mondiales ont explosé, le DAX a pris 5% à l'ouverture, 5%, et ensuite, il a traité dans un range de 150 points. Zéro volatilité. Comme quelqu'un qui vient d'apprendre une excellente nouvelle, mais qui ne sait pas vraiment quoi en faire. On est content d'être là, mais incapable de savoir où aller. Le S&P, le Nasdaq, le SOX, même scénario. La guerre est finie, tout monte. Et après ? Eh bien après, il va falloir payer pour voir. La tech, elle, elle n'a pas eu de problème, comme d'habitude, elle a explosé sans hésitation, les semi-conducteurs ont mis tout le monde d'accord, le SOX Index est revenu au plus haut de tous les temps. Oui, au plus haut de tous les temps, un cessez-le-feu bidon, et on est déjà reparti comme en 40. Intel a pris 45% en une semaine, et est au plus haut depuis 5 ans, et puis alors, évidemment, Nvidia, oui, Nvidia. Alors eux, ils ont cassé d'un coup les moyennes mobiles des 50 jours et des 200 jours, comme si la guerre au Moyen-Orient n'avait été qu'une parenthèse. Comme si l'IA s'était simplement mise en veille, le temps qu'on règle ce détail géopolitique et qu'elle reprend maintenant ses activités normales. Que dis-je ? Ses droits ! Il faut reconnaître une chose, dès que la poussière retombe, la tech, l'IA et les semi-conducteurs reprennent du service, sans attendre une seconde, sans transition, comme si rien ne s'était passé, c'en est presque rassurant. Et puis alors ce matin, les marchés asiatiques ouvrent dans ce jour d'après, parce que c'est toujours plus compliqué le jour d'après. Hein. Oui, c'est plus compliqué, on est monté très fort hier, rien n'a fondamentalement changé, donc on avance avec méfiance. Et quand un marché avance avec méfiance et parcimonie, il se passe pas grand-chose. On prend des profits, histoire de rentabiliser le déplacement. Le Nikkei recule de 0,5%, le Hang Seng de 0,26%, le Kospi 2%. Mais bon, le Kospi, c'est normal. Quand vous avez pris 8% la veille, vous pouvez vous permettre de souffler un peu. Et puis alors, j'allais presque oublier. Moi, j'allais presque oublier parce que hier, il y avait la Fed. Pendant que tout le monde s'auto-félicitait de la plus grande réussite diplomatique du siècle, la Fed a publié les minutes du dernier FOMC meeting au mois de mars. En temps normal, c'est l'événement de la semaine. On aime ne parler que de ça et penser que ça va changer le monde. Sauf qu'hier, personne n'en avait rien à foutre. Et je pèse mes mots. On préférait nettement regarder des généraux avec des plaques entières de médailles sur la poitrine se faire des bisous et sur les mains en se racontant à quel point ils avaient été géniaux, beaux, grands, forts, courageux et intelligents. Pourtant, les minutes du FOMC meeting portaient quand même un message. Et il faut le noter, un message important. Et ce message, le voici. La Fed ne sait pas quoi faire, elle en a aucune idée. Alors bon, ils ne le disent pas comme ça, évidemment, parce qu'ils sont trop bien élevés pour ça. Ils disent qu'ils maintiennent la flexibilité. Ce qui est une façon très élégante de dire qu'ils ont le cul entre deux chaises et qu'ils espèrent que quelqu'un va résoudre le problème à leur place. Pour l'instant, les gars restent clairement neutres, mais certains membres ont quand même glissé dans les comptes rendus qu'on pourrait monter les taux si le pétrole continuait à grimper. Ce qui est une façon particulièrement cruelle d'annoncer une possible récession à des gens qui payent déjà 5,67 $ le gallon de diesel. Le problème, c'est le combo classique de l'horreur. Inflation trop haute d'un côté, marché de l'emploi qui flanche de l'autre, les entreprises ralentissent, les embauches à cause de l'incertitude économique et de l'IA, paraît-il. Et Powell répète en boucle que si les anticipations d'inflation se désancrent, ça devient beaucoup plus compliqué. Traduction, si les gens commencent à croire que les prix vont rester hauts, c'est peut-être qu'ils ont raison. Alors ça ressemble quoi à tout ça? Ça ressemble un peu à un Canada Dry, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça ressemble à de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, ça pétille comme de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. L'inflation forte avec un emploi qui fléchit, ça ressemble à une récession, ça a l'odeur d'une récession, ça a le goût d'une récession. Et contrairement au Canada Dry, c'est peut-être vraiment une vraie récession. Le président de la Fed de Saint-Louis a d'ailleurs dit dans les minutes du mois dernier une phrase qui mérite d'être gravée en lettres d'or au-dessus de l'entrée du bâtiment de la Fed. « Je ne considère pas les anticipations d'inflation ancrées comme une vérité divine. Je sais que l'on doit travailler dur dessus chaque jour. » Autrement dit, tout ce qu'on vous dit sur la stabilité des prix tient avec du scotch et de la bonne volonté. Voilà, on est rassuré et on peut retourner jouer au paddle ou au Candy Crush. En résumé, la Fed voudrait bien baisser les taux, mais elle n'y arrive pas et donc elle n'exclut pas de les monter. Alors, vous, je sais pas, mais moi, je me sens vraiment en sécurité avec des gens pareils, c'est inouï. Un peu comme si j'étais dans un avion et que je regardais monter le pilote à bord complètement bourré. Je suis tellement soulagé de pouvoir compter sur ces gens-là. Et puis alors, parce qu'une journée sans oncle Donald serait une journée perdue, une journée gâchée, le voici qui revient sur le sujet du Groenland. Moins de 24 heures après le cessez-le-feu iranien, qui tient aussi bien qu'un château de cartes sous un ventilateur, Trump poste que l'OTAN n'était pas là quand on avait besoin de lui et reparle du Groenland qu'il appelle, je cite, « un gros morceau de glace mal géré ». Un gros morceau de glace mal géré est la diplomatie du congélateur dans toute sa splendeur. Mark Rutte, le patron de l'OTAN, a déclaré après sa réunion avec Trump et donc après ce poste qu'il comprenait la déception du président. Comprend la déception de l'homme qui veut démanteler votre organisation, c'est quand même pas très très loin du syndrome de Stockholm diplomatique. En tout cas, chapeau bas, Mark, la flexibilité de la colonne vertébrale à ce niveau-là, ça mérite un Oscar. Un vrai Oscar cette fois. Et puis alors, pendant ce temps-là, le Pentagone, impeccable dans son sens du timing, a laissé fuiter ses plans d'expansion militaire au Groenland. 3 nouvelles bases sont prévues, les Danois apprécieront sûrement. Et pendant ce temps-là, l'Iran, qui lui aussi a un sens du timing remarquable, distribue ses bons de réduction Hormuz à l'Espagne et à la Turquie, diviser l'OTAN de l'intérieur pendant que l'OTAN se désagrège tout seul. C'est du judo géopolitique de haut niveau et finalement, ils sont pas si idiots que ça. Voilà, c'est plus ou moins ça le monde dans lequel on se réveille ce matin. Un cessez-le-feu de 14 jours tenu par un miracle et quelques bonnes intentions. Une Fed qui navigue à vue et qui maintient la flexibilité. Ce qui, dans la langue de Molière, s'appelle « n'en a aucune idée ». Des marchés qui ont décidé que tout ça était une excellente nouvelle et sont remontés de 5% sur la base d'un accord dont personne ne sait exactement ce qu'il contient et même s'il va tenir. Un pétrole à 96 $ qui ne redescendra pas avant des mois et Trump qui reparle du Groenland à minuit passé. Ah oui, puis alors, j'allais presque oublier, aujourd'hui on aura le PIB américain et le PCE. Vous savez, le PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed. Celui qu'on surveille normalement comme du lait sur le feu. En temps normal, c'est aussi l'événement de la semaine. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout parce que entre Trump en majuscule sur le Groenland, l'Iran qui dit que le cessez-le-feu est déraisonnable et Hormuz qui reste fermé pour presque tout le monde, franchement, le PIB peut raconter ce qu'il veut. Ça ne changera pas grand-chose à l'ambiance générale. Et il y a un vieux principe dans la finance que j'aime beaucoup. Le marché a toujours raison. Toujours. Et même quand il a tort. Même quand il monte de 5% sur un accord que personne ne comprend et qui tient avec du scotch et des bouts de ficelle. Si le marché dit que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. On prend les 5%, on remercie poliment la communauté internationale de son incompétence organisée et on attend le prochain tweet. Oui, parce qu'il y aura toujours un prochain tweet. En attendant, c'est la seule certitude absolue de ce matin. Vous payerez toujours votre plein très cher ou alors vous achetez une Tesla. En ce qui me concerne, je m'en fous. Je vais continuer à payer mon essence très cher. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Ensuite, vous activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo et comme ça, vous ne raterez pas quand on passera les 100 000 abonnés, c'est pour bientôt. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aussi liker, partager, commenter cette vidéo et la partager à tous vos amis qui pensent que l'essence va baisser très rapidement. Et puis, nous, on se voit demain, comme d'habitude. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.